Thank you so much. Merci.
Est-ce que ça va si on n'utilise pas les micros?
Oui.
Vous entendez bien? Ça
Est-ce que vous m'entendez? Oui.
Sinon, c'est selon. Gênez-vous pas si...
si vous préférez que... Oui, c'est ça. Oh, excuse.
Ah non, non, non. Merci. Merci à toute l'équipe de sa vidéo. Merci, Hélène, infiniment. Pour t'introduire en bonne et due forme, je vais lire ta notice biographique, même si la plupart des gens dans l'auditoire, en fait, te connaissent très bien. Donc, basée à Ottawa, Hélène Lefebvre mène une pratique artistique où elle s'intéresse aux questions d'identité et d'altérité à la frontière des arts visuels, de la culture et de la société. Depuis la création des Moissons en 2009, elle s'intéresse plus particulièrement au corps en mouvement et à l'écoute sensorielle active, fondement de l'art de la performance. Plus récemment, ses œuvres ont pris la forme de performances, d'installations et de vidéos. Sa pratique corporelle s'inspire de ses études en art visuel et en danse contemporaine, ainsi que de la technique du mouvement authentique, où l'improvisation joue un rôle central. Pour ce soir, Hélène et moi, on va vraiment être en discussion. Soyez pas gênés, pour questions, interventions. Je pense que ça peut simplement, finalement, dynamiser notre discussion. Ce soir, j'ai préparé 4 questions pour Hélène, parallèlement, finalement, au projet Open Water. Donc, soyez à l'aise si jamais il y a des notions ou quoi que ce soit qui sont incompréhensives. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, je vais commencer... justement à introduire Open Water, qui est la documentation d'une performance, finalement. Donc, la vidéo et la documentation substituent la performance Open Water. Celle-ci se réactualise à chaque présentation. Ce document produit par l'artiste elle-même perpétue le caractère d'authenticité et d'unicité de sa performance. Il vise à assurer la pérennité, l'authenticité et, de surcroît, l'intégrité de la performance. Or, la documentation réactualise, elle se réactualise d'une représentation à une autre. D'après mes recherches, justement, comme Néven l'a dit, j'ai des recherches axées justement sur la performance, sur la documentation, et j'en ressors que depuis 2000, approximativement, la majorité des performances sont entièrement réfléchies en prévision de leur documentation photographique, vidéographique ou filmique. Justement, puisque ce soir la discussion est orientée sur la documentation de la performance, je considère qu'il s'avère impératif d'introduire celle-ci avec une définition finalement de cette récente pratique qui est la performance. Et cette définition-là résulte de mes recherches à la maîtrise. Si vous la trouvez trop exhaustive, je ne vais pas m'arrêter, mais au moins ça va pouvoir nous mettre en contexte, puis ensuite en déduire, pourquoi pour certains théoriciens ou quoi que ce soit, la documentation d'une performance s'avère problématique. Donc, selon Jonah Western, le terme « performance » est contradictoire. La performance désigne des pratiques artistiques diverses et plus divergentes les unes des autres. Certes, le terme « performance » ne cesse d'être redéfini. La performance est une discipline relativement récente, début du 20e siècle, dont les formes d'expression ont et continuent d'évoluer considérablement. Nulle autre forme d'art n'a fait l'objet de manifestes théoriques et d'expressions pratiques aussi variées. Elle résulte d'une combinaison de comportements entre attitudes et gestes transmis par le corps, bien souvent libérateurs, et qui ne sont pas tous normés. Laurie Carlos, artiste et théoricienne de la performance, affirme « La performance était précisément le lieu de la rareté des définitions. » James Hoffman et Joan Jonas, pour leur part, considèrent qu'il suffit d'observer la diversité des pratiques associées au terme pour s'apercevoir que la performance peut tout être, à l'exception d'une discipline rigoureusement définie. L'insaisissable participe alors à ces définitions. À ses débuts, la pratique de la performance n'était rattachée à aucune définition spécifique. Il s'agissait d'une activité intégralement permissive et subversive qui se prêtait naturellement à des discrétions intellectuelles, institutionnelles et formelles. La performance des années 1950 semblait le moyen à préconiser pour s'esquiver des catégorisations établies par le musée ou le marché de l'art, les artistes s'opposant à la civilisation et à l'institutionnalisation et de la désolé. Oui, mes grands mots. Spectacularisation, merci infiniment, des œuvres performatives. Les artistes y déclaraient leur liberté en multipliant les actes de contestation devant un public. J'ai presque terminé, je vous l'assure. Dans le dictionnaire encyclopédique de la muséologie, la performance désigne une présentation réalisée en public par un artiste plasticien. Ainsi, la relation avec le regardeur est indissociable et demeure une notion primordiale pour la pratique. Chacun des mouvements auxquels la performance est rattachée émerge à une période historique. Elle invite à renoncer à la spéculation et à la médiation pour un art opérationnel et socialement efficace. Elle regroupe des propositions artistiques de durée variable pour lesquelles des gestes d'exécution ont une valeur artistique intrinsèque. Hoffman et Jonas rapportent que le terme performance s'emploie pour désigner une forme artistique fondée sur la représentation en mouvement. Anne Binichou va dans le même sens en affirmant que les actes performatifs mobilisent le corps, qu'ils établissent des relations singulières avec un public et sont réalisés en regard de contextes spécifiques. En somme, la performance semble se définir fondamentalement avec l'exécution d'actions radicales ou pas, entreprises par le corps et présentées publiquement pour l'immédiateté de son pouvoir signifiant dans un espace-temps déterminé. C'est la description assez abrégée que je vous propose pour ce soir. Allons-y avec la question 1 qui introduit cette discussion. Donc, certains théoriciens critiquent la documentation de la performance. En effet, d'après eux, celle-ci transformerait l'essence même de la pratique qui, d'emblée, se voulait transgressive et subversive, comme je l'ai dit précédemment. Elle est, en fait, justement réitérée, reconstituée et répliquée, ce qui va à l'encontre de ses principes d'origine. L'un des premiers ouvrages portant sur ce sujet est de Peggy Pelham. Je ne sais pas si d'entre vous ont lu ce livre. Donc, Pelham, en fait, écrit à l'intérieur de ce... qui est vraiment, finalement, malheureusement, encore une source. Puis on voit à quel point, bon, certains théoriciens restent dans les années 1990, que la performance, finalement, ne peut pas être enregistrée sous quelconque façon et ni documentée. Donc, elle s'oppose justement à quelconque procédure de manipulation, formellement justement, à sa documentation qui engendre sa représentation. Et là, bon, j'arrive à ma question. Est-ce que tu es justement en accord ou en désaccord avec le fait de dire que tout ce qui est finalement de la documentation de la performance qui engendre la reconstitution, donc nécessairement sa marchandisation et son institutionnalisation, serait justement un problème en regard de cette pratique-là? Est-ce que tu considères que la performance est une pratique qui est non reproductible justement par le biais de sa documentation?
D'après moi, d'après mes lectures aussi, puis mes recherches, puis ma connaissance de la performance et de son histoire et aussi de mon utilisation, c'est qu'il y a deux... Je sais qu'il y a la documentation et l'action, l'œuvre, autrement dit. Il y a une différence entre qu'est-ce que l'artiste décide de choisir comme œuvre. Est-ce que c'est une performance en direct ou une document... Ben, en fait, il y a certains artistes qui ont utilisé la documentation à des fins performatives, des pressés présentés en musée. Comme par exemple, il y a un Mexicain, il est belge, il est allé au Mexique, en tout cas, c'est... il a utilisé la documentation de sa performance comme étant plus vrai que l'action qu'il a fait en performance, en direct, je veux dire, dans le moment, avant la capture. Et moi, en fait, mon propos avec Open Water, c'était de travailler... en performance, en action, avec comme spectateur la lentille. Et la lentille photographique, c'était vidéo. De vidéo était ici mon spectateur, en fait, avec lequel je devais travailler. Ma proposition, c'était d'utiliser la rivière comme un laboratoire. C'est la façon que je conçois généralement mes performances, c'est comme en laboratoire. Je me loue des pièces où je vais travailler et je travaille avec les actions, avec mon corps en mouvement pour arriver à saisir des moments qui sont performatifs et qui peuvent m'aider à développer un concept et aussi d'arriver à développer des ancrages qui me serviront à une performance. Mais je ne l'ai pas capté à ce moment. Mais celle-ci, c'était fait pour... donc, la rivière gelée est mon laboratoire où je vais faire des actions. Et c'est capté en images. Et ma proposition, c'est d'arriver à créer une vidéo avec ça. Un scénario qui n'est pas préétabli. J'arrive vis-à-vis ce vide, qu'est-ce qu'il me présente cette journée-là? Et mon conjoint, il tient la caméra, il capte, et puis, moi, je regarde ce qu'on a capté, puis ça me reste en tête. Puis là, les prochaines fois où je vais sur la rivière, je travaille encore à chaque fois avec ce qui se présente là parce que ça change. Tous les jours où je vais sur la rivière, les conditions sont pas les mêmes. Même si je suis allée à la même heure de la journée et aussi pour avoir une... Je savais pas ce que j'allais créer comme scénario performatif. Mais pour moi, c'était essentiel d'être dans le moment et de créer une action pour la lentille. C'était mon public. La lentille, la caméra, était mon public. Et à partir de la conception de la capture, j'ai réalisé la vidéo. En fait,
c'est ce qui est intéressant en même temps parce que tout théoricien des années 90, que je pourrais critiquer assez virulemment, s'attarde justement au caractère probablement trop préconisé justement qui tasse tout ce qui est improvisation justement en prévision d'une documentation. Je ne sais pas si je suis assez clair, assez concis, précis. Mais ce que je comprends bien avec Open Water, c'est qu'il n'y avait rien finalement de préconçu en prévision de cette documentation. Puis justement, la part d'improvisation dans ton travail finalement est ressentie de toutes parts, puisque c'était vraiment finalement l'immédiateté, le moment présent, tout l'aspect, l'éphémérité qui est vraiment finalement, qui est là, c'est ce qui est ressenti. C'était pas justement, d'une certaine façon, stagé.
J'essayais d'être le plus fidèle possible à ce côté-là performatif que je travaille. Et c'était pas d'essayer de faire des traversées imaginées. Mm-hmm. C'était de travailler avec le fait d'avoir failli ma traversée,
oui.
En fait. Et c'est devenu open water parce que la rivière... m'a pas permis de faire cette traversée-là.
Oui.
Et qu'est-ce qui me restait à faire et quoi faire avec ce qui est... c'était flotter sur un morceau de glace, puis je veux dire... de traverser la rivière de cette façon-là, et puis il y avait aussi le sensoriel, tu sais, là. J'avais des actions que j'ai réuni pour arriver à créer cette vidéo-là, qui finalement me renvoie à moi, la précarité de, du corps humain et dans cette rivière qui a débordé finalement, mais c'était d'être en contact aussi avec la nature et d'expérimenter de proche ce contact-là.
Oui.
Et c'est...
Finalement, il n'y avait rien de préconçu pour cette documentation-là. Finalement, c'est vraiment une documentation de tes actions momentanées, spontanées. Génial. Tu plairais bien à Peggy Pellan et ses théories. Je vais passer à la deuxième question parce que, bon, on est dans tout ce qui est justement la présence. Puis, donc, dans Presence in Absentia, l'historienne de l'art Amelia Jones examine les problèmes ontologiques et pratiques de l'expérience de la performance à partir des documents qui témoignent de la présence en direct des actes de l'artiste, et ce justement malgré son absence. Rebecca Schneider, contrairement à Peggy Pellan, de qui je parle, soutient que la performance et la présence qu'elle implique perdurent grâce à la répétition, sa reproduction et ainsi la documentation. Avec Open Water, est-ce que tu considères que ta présence, justement, se transpose pleinement à travers la documentation, justement, de chacune de tes actions, expérimentations, interventions? Est-ce que pour toi, justement, c'est cet aspect, bon, quand on va voir une performance en direct, on sent la présence de l'artiste, est-ce que tu considères qu'elle est pleinement ressentie, justement, à travers cette projection-là, à travers, bon, la documentation?
Bien, j'ai fait moi-même le montage, la direction du montage, pas techniquement, mais en fait, j'étais là présente à tous les scénarios de montage. Et j'ai choisi celle que je me rappelais aussi, que c'était vraiment, aussi, où l'image représentait mon expérience et le moment vécu. Et l'expérience du moment. La question, c'était...
Est-ce que tu considères que, bon, dans un projet justement comme Open Water, est-ce que, est-ce qu'on ressent ta présence ou il est plutôt question d'une absence? Puis peut-être même qu'on peut en parler, on peut élargir la question avec vous.
Mais moi, j'aimerais revenir au côté subversif.
Oui.
Si c'est institutionnalisé,
oui,
puis que c'est documenté, c'est aussi que les institutions ont beaucoup évolué. À l'époque où on avait cette définition, on avait des institutions beaucoup plus rigides.
Oui.
Là, elles se sont assouplies.
Oui.
L'art vidéo n'existait pas au moment de la première définition non plus.
Oui.
Et moi, je trouvais ça extrêmement subversif en termes de contenu parce que les adultes ne se traînent pas dans la neige.
Mm-hmm.
Moi, j'ai rarement vu, et ça me touchait énormément, de voir l'artiste se traîner dans la neige qui est froide, l'artiste qui avait un vêtement relativement mince. Nos enfants qui jouent dans la neige sont habillés comme des cosmonautes. Et là, on avait une artiste qui se traînait dans la neige et qui se mettait en danger de tomber dans l'eau glacée. Moi, j'ai trouvé que ça dépassait nos cadres sociaux totalement. C'est une création qui nous force à voir l'hiver autrement, qui nous force à voir notre comportement face à la nature, notre prudence excessive.
Mm.
Puis moi, ceux que j'ai vus se traîner dans la neige comme ça, c'est des documentaires qui remontent aux années 70, des Inuits qui chassaient. Alors, et là, il y a toute notre lourde civilisation qui a étouffé ça et qui, là, est ramenée par la voie des arts. Alors, moi, je trouve que c'est une œuvre... fantastique.
J'ai une opinion qui est très similaire à la vôtre, là. La présence est ressentie. C'est juste... il n'y a rien de préconçu, c'est ressenti. Il y a justement, il y a un rapport avec le corps, à la matière, qui, la neige. Oui.
J'ai une question pour Hélène.
Oui.
Est-ce que vous pensez que dans la post-production, vous avez comme les libertés qui vous aident à donner la. I'm trying. Do the editing tools help you get across what you want to experience? Do you know what I mean?
Donc en fait, les outils que vous avez utilisés dans la production après la performance,
ouais, ouais.
Est-ce que ça vous a aidé à vraiment traduire votre idée de la performance?
Yeah.
Yeah, like.
Does it give you an edge up? Like.
Est-ce que c'est un avantage? En fait, I'll link it to my question.
Yeah. Okay. Cool.
Est-ce que c'est un avantage d'être, disons, la productrice de votre vidéo et de montrer aux personnes qui voient votre vidéo ce que vous voulez qu'ils voient?
Oui.
Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment été.
On n'a pas été là
avec vous durant toutes les heures de traversée.
Non.
On a vu ce que vous voulez qu'on voit.
Oui.
Donc, est-ce que comment. Comme des commentaires là-dessus, en fait.
Ben, la proposition, c'était pas de créer 5 heures de.
Oh.
ça aurait été autre chose.
Ouais.
Je veux dire, c'est toujours aussi possible de montrer quelque chose vraiment, là, tu sais, si tu veux épuiser le spectateur ou si tu veux épuiser une action, tu peux le faire aussi. Mais c'est sûr que, parce que j'étais là au montage et que j'ai décidé du montage et que moi, j'ai comme traduit mon expérience aussi. Et j'ai pu véridique avec ce que je voulais dire aussi. Et, je veux dire, si tu donnes la liberté, je n'ai pas utilisé d'artifice. Il n'y a aucun artifice qui a été utilisé. C'est même les expériences sonores sont des expériences que j'ai vécues et que je pouvais témoigner, mais que la caméra n'a pas capté et que j'ai recréé dans un studio à Sort Vidéo. Donc, c'est des outils qui sont vraiment merveilleux, qui t'aident à... Mais c'était comme pas être nécessairement... J'avais pas de la neige, là, tu sais, là, mais j'avais comme mon vêtement qui frottait contre un papier sablé ou des choses comme ça. C'était peu de son, mais comme la goutte d'eau, je veux dire, j'avais de l'eau, là, tu sais, je veux dire. Et bon, alors en montage, il y avait ça et il y a eu... Ça a été pour moi des apprentissages aussi. C'était comme l'aspect sonore. Ça a été un gros investissement et bien apprécié. Alors, oui.
Non,
continuez. Ok, non, t'as pas levé la main, hein, c'est
si,
ça.
Si, je
vais poser. Ah oui, ok. Oui.
Non, vous l'ayez fait quelque
chose. Hein?
Ah, ok, d'accord.
Est-ce que tu veux poser une question?
Je pensais que vous continuez. Ok, oui, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez nous donner un tout petit peu de contexte sur le choix du site?
Pourquoi j'ai choisi la rivière?
Oui. Ce site en particulier sur lequel vous avez travaillé.
Parce que la rivière est quelque chose de très présent dans mon identité comme francophone et qui vit ici, qui est arrivé ici pour travailler, qui demeure toujours en Ontario. Alors, puis c'est le Québec de l'autre côté. Je partais toujours du même endroit, qui était juste devant le musée de l'histoire, et près du pont, le pont qui chante, le pont Alexandra. Et pourquoi la rivière? Parce que Il y a toujours, parce que l'hiver, parce que c'est l'hiver, parce que à Québec, j'entendais toujours parler des ponts de glace, qu'on traversait le fleuve Saint-Laurent en voiture et pour se rendre à Lévis. Et c'est une activité aussi maintenant avec les canots et puis la traversée. Alors, j'ai recherché aussi ici un peu. Il y avait ici, ça existait le pont de glace. Peut-être que Louise, Nathalie pourrait en parler davantage. Là, c'est pas mal son domaine. Je voulais explorer, mais pas. Je voulais pas refaire l'histoire. Je voulais pas reconstituer. Mais c'était un point de départ. Alors, c'est un point de départ. Qu'est-ce qu'il y a sous la glace? Jusqu'où l'hiver contemporain va me permettre d'aller? Qu'est-ce que l'hiver contemporain va me permettre de faire, ne sachant pas ce qui allait arriver? Alors, puis c'était qu'est-ce qu'il y a sous la glace? Que contient les eaux, finalement, sous la glace? Et comment ça va me parler? Et voilà, c'est plutôt ce côté de l'hiver, de la neige. Et c'est ça qui m'a amené à me donner comme défi d'essayer de traverser. Mais je voulais pas simuler faire semblant de traverser parce que la caméra peut te faire. Alors, il fallait que je traverse la faillite, il fallait que je traverse la peur, négocier avec la peur. Mais arriver à concevoir des actions différentes avec l'eau. Qu'est-ce que. Je me suis prise à regarder des films. Là, je suis en train de regarder Free Solo, puis l'Arctique. Et puis je voyais que ces gens qui arrivaient à s'exprimer dans la neige et aussi celui qui monte sa montagne juste avec des petits doigts et ses pieds, et il n'y a pas de corde, il n'y a rien qui le soutient. Oh mon Dieu! Mais je suis loin d'être une personne comme ça, mais c'est ça, c'est comme...
Non, je posais cette question aussi par rapport à ce que disait Jean-Michel avant, ça cette définition de la performance comme quelque chose à la fois d'éternel, et la fois difficile à capter. Et je trouvais que c'était assez particulier dans le choix du site, exactement cette fragilité du site lui-même,
ouais,
qui était en soi intraversable.
Ouais.
Et du simple fait que vous l'avez investi en essayant de le traverser, c'est un peu comme si vous essayiez, si on va dans une définition un peu plus formelle de la performance,
ouais,
de rejouer cette fragilité de la performance elle-même, du choix même du site. Donc c'était pour ça que vous avez essayé.
Mais oui, c'est ça. Alors, mais c'était pas que je prévoyais la peur que j'allais ressentir et toutes ces choses qui sont remontées finalement parce que à cause des conditions, mais voyons, que je me disais, mais t'as peur, tu sais, va plus loin, va plus loin. Puis là, j'étais sur la glace, puis c'était gelé, puis j'entendais l'eau en dessous. Mais alors, ça me séduisait en même temps, mais j'avais aussi peur. Alors,
non, mais c'était très beau le moment où il y a cette fragilité, où vous êtes presque en train de tomber dans l'eau. Qui cristallise d'une certaine manière.
Ouais, c'est ça. J'ai conservé ça, mais j'ai l'air de quelqu'un. Tu sais, je veux dire, j'arrive pas à faire. Mais c'était pas l'idée de tomber non plus dans l'eau, puis d'être. C'est ça, exactement. Et c'est ce qui se passe finalement. C'était un lieu intéressant de façon identitaire et c'était qu'est-ce qui va se produire cet hiver qui va me permettre de réaliser quelque chose, un montage vidéo. Et voilà. Mais là. Merci beaucoup si vous rejoignez mes pensées.
Oui, la mise en péril de ton corps finalement atteste de ta présence. Totalement. on sent que c'est ressenti, c'est pas... ouais, on s'en est déjà parlé. Je suis assez sensible, finalement, au contenu. Je pense que je vais rebondir sur ma troisième question. Donc, dans mes recherches récentes, justement, j'ai établi une typologie de procédés de diffusion d'œuvres performatives muséalisées, donc collectionnées dans les musées. Le premier procédé de cette typologie, réactualiser une performance à partir de documents, vise à présenter une performance en prenant pour appui son fond documentaire. Donc, la muséalisation, donc le procédé d'intégration dans la collection de cette documentation, par ailleurs, permet aussi de réactualiser les performances par le biais de documents considérés matériels et d'autres considérés conceptuels, qui sont, bon, des images photographiques, vidéographiques, filmiques. Donc, d'après justement la conception du théoricien Jean Meyria, le document matériel s'appréhende tel un support, donc il fixe de l'information, il est stable et durable, il est aussi reproductible. Quant au document conceptuel, il a justement un contenu qui est davantage informatif. Roger Pedoc affirme « L'important est le contenu matérialisé par l'inscription qui est porteur de sens ». Dès lors, le sens de cette documentation substitue, donc matériel et conceptuel, de forme et de contenu, se réactualise selon chaque contexte de production et de diffusion. D'après justement les écrits de ces théoriciens, est-ce que tu crois que la documentation matérielle et conceptuelle tout à la fois, donc qui est stable, durable, reproductible, de même qu'informative évidemment, d'OpenWater valide en quelque sorte ta performance et ça au-delà finalement de ta présence. Est-ce que pour toi, ce que toutes ces expériences vécues là finalement par tes actions, la mise en péril de ton corps, est-ce que tu considères que la documentation, et bon là évidemment il y a eu une manipulation de ta part, est-ce que tu considères finalement que ça la réactualise? Qui est authenticité.
Oui. Est-ce que ça la... Au-delà de la présence,
oui.
Est-ce que ça me permet de vivre... c'est que, certainement, que de travailler avec l'image, c'est comme de travailler avec un procédé inverse et de travailler à la fois avec ce que tu as ressenti, qui est l'expérience de performative normale. C'est que quand, en fait, dans ma façon de performer, c'est que si je performe, mais je ne vois pas ce que je projette. Je ne le vois pas, je ne suis pas à l'extérieur de moi. Alors, mon expérience provient de l'intérieur et va vers l'extérieur. Alors, je n'ai jamais la chance de voir comment l'action se traduit pour ceux qui regardent la performance. Alors, cette fois-ci, j'ai comme vécu en direct les actions. J'ai cette expérience-là que je retiens et c'est moi qui est au montage. Alors, j'ai comme l'utilisation de l'image aussi en même temps. Et je peux, ça me permet de voir comment mon action est projetée. Alors, c'est plus que juste l'expérience en soi qui se passe et ce qu'on vit dans le moment. On vit dans le moment, mais on a aussi, quand on est fidèle à cette idée du vécu du moment et que ça, et qu'on travaille avec l'image, ben là, à ce moment-là, on peut reproduire, on peut reproduire notre expérience, mais avec en plus l'information de l'image qu'on n'aurait pas autrement.
Parler un peu de la projection dehors,
oui.
Parce que je trouve que
peut-être l'idée de réactualiser l'œuvre, ça la change complètement. Mm-hmm. Pour moi, j'ai vu d'abord dehors, puis là, je le vois ici, puis pour moi, comme, c'est vraiment très différent comme expérience. Par exemple, la traversée, pour moi, parce qu'il y a le trafic, la circulation des voitures, ça crée comme une différente genre de vulnérabilité pour le voyeur. Là, c'est très différent, mais j'imagine que ça peut être un peu parallèle à l'eau. Tu sais, il y a comme, que par exemple, que toi, tu avais vraiment été vulnérable par rapport à la rivière, mais là, nous, les regardeurs, on est vulnérables par rapport au trafic. Cette relation, pour moi, il y a comme un genre de parallèle. Je ne sais pas si tu avais réfléchi à la résonance que l'œuvre aurait comme... C'est complètement différent que dans un espace de galerie. Je ne sais pas si tu peux
Oui, je l'ai.
Un peu, puis aussi de ce lieu en particulier, puis si comment tu avais conçu ça.
Bien, premièrement, c'est sûr que c'était pensé parce que l'idée, c'était que ça pouvait être projeté sur un édifice, puis aussi cet endroit-là. Et j'ai... Ben, d'où le titre « Open Water » qui marchait aussi, là, parce que c'est une piscine qu'il y a en haut. Et aussi, il était question de, dans la capture, de ne pas avoir d'édifice ou de choses autour, d'être juste sur ma présence et en mouvement sur la rivière. Alors, des captures très rapprochées, parce que ça n'aura pas fait de sens de donner trop d'avoir de l'information sur un édifice comme ça. Alors, pour le passant, pour que ça devienne une image stimulante pour le passant, c'était comme juste de voir un corps en mouvement. Alors, j'étais limitée un peu par ça aussi. Dans la... Même si moi, je suis en présence de tout ce qui se passe autour des gens qui traversent le pont cette journée-là, des choses qui se passent, la vie de tous les jours. Quoique, c'était bien tranquille sur la rivière, il n'y avait personne, il y avait juste moi. Mais il y avait aussi des petits animaux qui ont traversé. Ils ont réussi à aller de l'autre bord parce que leur petite patte était quand même visible. Mais il y avait. C'était mon atelier privé. J'étais la seule qui était sur la rivière et puis c'était les traces de pied étaient les miennes. Non. Est-ce que ça répond à ta question au niveau là, du.
Est-ce que tu avais. Le site, étais-tu décidé avant de produire la vidéo ou bien comme le site de projection ou bien je suis juste curieux? Parce que...
Non, le site, c'est devenu un peu dans le cours de... Ouais, j'étais en conception vidéo et je pensais à des lieux, je pensais quoi projeter. Mais j'étais très concentrée sur la conception de ma vidéo, en fait.
Je trouve aussi la dimension audio sur le site.
Oui.
Ça fonctionne très bien. Comme pour nous amener vraiment comme dans l'action, là, ça crée comme...
Tu veux dire dans la rue, là?
Oui. Je trouve que ça crée vraiment comme un genre d'empathie avec le performeur ou la performeur. Je sais pas, ça change complètement l'œuvre parce qu'au début, je regardais sans les écouteurs parce que Jésémy, puis c'était comme complètement...
Oui.
Ça change vraiment. C'est très différent que l'expérience quand on va ici.
Oui, aussi, oui. Ouais.
Les deux sont intéressantes, mais c'est très différent.
Oui. C'est très intime dans la rue avec les écouteurs. Et quand... Où tu peux avoir une expérience, puis partager, puis parler avec d'autres, et puis de voir les images en même temps, puis que tu es plus attentif à l'extérieur, à d'autres choses, à ce qui se passe. Alors que quand tu as les écouteurs, moi, en tout cas, mon expérience, et l'expérience que je remarque, c'est que les gens deviennent intimement en contact avec la vidéo. Et,
Mais ça amène une grosse concentration, puis je pense que ça nous ramène à ton corps qui est très concentré dans l'action. Donc,
ouais.
Ça crée un peu, en tout cas, ce feeling, je trouve.
Merci. Ouais, merci. Ah, encore une autre perception qui, c'est ça, l'emmagasine.
Ouais.
Ouais.
Totalement. Mais c'est bien, en fait, parce que, tu sais, lorsque je parle de réactualisation, le contexte de diffusion à l'extérieur, pour moi, je suis resté une soirée, je crois que je l'ai écouté deux ou trois fois en boucle, puis à chaque fois, j'avais l'impression, justement, que la performance se réactualisait d'elle-même, que j'étais dans un contexte, finalement, de présentation, puis qu'il y avait cet aspect-là assez direct, justement, parce que, bon, quand on va avoir de la performance, dans quelconque événement, festival, entre autres, il y a toujours finalement de l'action autour.
Ouais.
Puis j'ai l'impression que j'avais la même effet de fourmillement. Puis, tandis qu'ici, bien, je me suis assis à côté d'Hélène. Puis c'était frontal. Vraiment une toute autre, justement, réactualisation qui est différente. Ici, drôlement, je sentais que c'était vraiment. J'avais affaire plutôt à un document. Tandis qu'à l'extérieur. L'expérience était vraiment autre. Vraiment l'expérience finalement spectatoriale qu'on peut retrouver en performance. Le contexte joue énormément. Puis, juste un petit exemple, parce que bon, on parle de réactualisation de documents, puis on en avait discuté ensemble, de Trio A d'Yvonne Rainer, entre autres, qui est bon, un document vidéographique finalement de son illustre chorégraphie performative. Bon. C'est selon, puis habituellement, elle est diffusée sur un menu écran tout petit, vraiment minuscule, dans la salle des collections permanentes. Puis, dernièrement, ils ont réactualisé justement cette vidéo-là dans l'exposition du Judson Theater. Bon, une grande exposition rétrospective où la documentation était dupliquée sur quatre murs, donc très immersif finalement. Très participatif également pour le visiteur. Et là, c'était vraiment une toute autre expérience. J'avais justement l'impression qu'Yvonne Rainer, bon, gravitait autour de moi, dansait finalement. Donc, c'est vraiment, ouais, c'est une question de contexte aussi, je crois, pour la réactualisation, documentation en performance. Puis à l'extérieur, en tout cas, Nathan peut en témoigner. Ah, j'étais vraiment. Ouf, ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas vécu. Cette expérience-là par la documentation d'une performance, tu sais que ouais, j'ai énormément apprécié. Puis bon, je pense que le temps file énormément, puis ça va bien rebondir sur la dernière question de la soirée. Donc, évidemment, lors de documentation de performance, bon, durant la présentation, son exécution, et là, je parle ici d'Open Water, il n'y a aucun rapport finalement avec le public, parce qu'elle est réalisée dans un tout autre contexte, sur la rivière. Puis c'est pas un espace finalement qui est adapté à une performance, et ni même, et d'autant plus à un public. Puis bon, ici justement, je fais écho à ce que j'ai précédemment énoncé en introduction. Donc là, je vais citer André Desvallées et François Mérès. La relation avec le regardeur est indissociable et demeure une notion primordiale pour la pratique, et ce même, bon, si la performance a évolué. Donc, bon, toutefois, la documentation permet littéralement, en fait, d'ouvrir cette expérience spectatorielle. Je parle d'Open Water, donc, cette exécution-là. Puis ça, bien qu'elle soit indirecte, et justement, qu'elle ne soit pas faite devant le public. À l'extérieur, le public participe directement à cette expérience, finalement, à cette exécution-là. Puis le public, bon, est différent. Qui n'est pas devant toi, donc on parle encore justement de cette notion-là, bon, tout est indirectement. Le public à l'extérieur est constitué de flâneurs, citadins, et non pas finalement de visiteurs de galeries ou d'institutions, justement, on ne parle pas d'un visiteur averti. Toutefois, les regardeurs participent à la contextualisation, en quelque sorte, d'Open Water. Donc la performance est participative, elle est immersive, elle est interactive, et justement avec l'ajout de l'apport sonore dont Julie a brièvement parlé tantôt, puis qui agit justement directement sur cette expérience-là. Et là, voici ma question. Est-ce que tu es d'accord pour affirmer que le public, ou du moins justement l'engagement des spectateurs, bon, des passants, réactive en quelque sorte ce contexte-là de performance? Est-ce que tu trouves que ça va justement au-delà du document qui est justement, bon, réactualisé? Est-ce que pour toi, le public a une part prenante finalement sur cette idée-là de ressentir le document, la présence, comme on a pu en discuter dans cette conversation?
Ben chaque personne, ben j'ai eu des contacts avec les gens qui se sont attardés à voir et partager eux-mêmes leur expérience et comment ils le vivent et aussi ça m'enrichit. À chaque fois, moi, je peux le partager, je suis libre de partager mon expérience avec eux si eux veulent savoir, veulent que j'en parle. Et aussi, en même temps, je peux aussi recevoir leur réception et échanger sur comment ils le reçoivent. Et puis, il y a des gens, il y en a un, c'était mardi soir. Il m'a parlé de... parce que lui, il est né ici à Ottawa. Et il a lui-même, quand il avait 14 ans, il m'a dit qu'il a essayé de traverser cette rivière-là. Et que il m'a parlé de la précarité, que ça avait vraiment aucun sens de s'attarder sur la rivière comme ça, que lui, il l'a expérimenté à 14 ans et puis qu'il s'est rendu jusque dans le milieu, puis qui entendait aussi l'eau alors que c'était gelé. Et que... Et d'autres personnes me parlent des gens qui... Tu peux pas utiliser un morceau de glace pour traverser la rivière parce que tu traverseras pas, tu vas aller avec le courant. Alors, tu sais, je veux dire, mais il y a des gens qui... des jeunes qui ont essayé ça, que ça avait l'air vraiment, vraiment intéressant et expérimenté, et que, bon, il y a des sauveteurs qui ont dû être interpellés pour aller les chercher, parce qu'ils ne pouvaient plus revenir. Ils étaient comme partis sur le courant. Alors, je reçois des partages d'expériences, oui. Des gens qui reçoivent, mais là, moi, je vis sur le bord de la rivière, je comprends ça, là. Puis elle avait regardé deux fois, c'est pas quelqu'un qui est familière avec le milieu artistique, à ce que je sache, et elle s'est juste attardée à expérimenter, la vidéo était vraiment captée. Là,
ouais, les gens en fait s'engagent justement par cette expérience-là.
Quand ils ont les écouteurs.
Ouais, ouais. J'ai remarqué, je regardais justement. Les passants écoutent,
ouais.
Ils vivent justement cette expérience-là. Puis c'est là finalement que ça devient très interactif, très participatif. Puis c'est là que je considère finalement qu'on peut ressentir le contexte de la performance. Puis justement, les gens s'attardent à « Ah, elle se met justement en danger, elle se met en péril. » Puis c'est que ça fonctionne finalement.
Ouais.
Il y a vraiment une présence qui est ressentie. Puis c'est récurrent finalement dans l'espace public d'une ville de projeter des vidéos, mais là on est en performance, puis j'ai l'impression que c'est ce qui fait en sorte finalement que les flâneurs s'arrêtent pour justement devenir regardeurs. C'est toute l'idée de la présence du corps. Pour moi, en tout cas, je trouve que ça prend tout son sens. Ça va au-delà finalement d'une vidéo d'animation où on passe. Là, on veut plus, on veut te voir finalement interagir avec la rivière. C'est là, on ressent finalement tout ce qui est si prenant et à la fois fascinant finalement en performance par la documentation qui est bien mise justement en contexte, où on est loin de justement toute notion d'absence, on sent la présence de l'artiste, la tienne par ailleurs, donc pour moi, je trouvais que c'était intéressant, puis c'était important qu'on discute justement de documentation en performance, puis vraiment c'est, ouais, félicitations à
ouais. Comme performeur et avec tous ces écrits-là, ouais. Là, c'est quoi la différence? Est-ce que ça peut faire œuvre performative? C'est quoi?
C'est une documentation réussie. Oui. Oui. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Mais moi, je dirais que c'est tout ça, l'œuvre. C'est le moment où tu étais dehors sur la neige. C'est ce qui est passé dans la caméra, ce que tu as choisi de montrer. Ce qui est projeté avec les écouteurs, ce qui est projeté ici, la rencontre, c'est tout ça l'œuvre. C'est ça qui fait que c'est une performance, la documentation est intégrée, c'est une performance intégrale qui englobe tout ça. C'est vraiment très intéressant. Elle est comme géodésique avec différentes facettes. Il y a la facette où tu étais dans la neige, la facette où tu as choisi quoi montrer, la facette où c'est projeté. Alors, c'est vraiment une œuvre qui a différentes composantes, mais ça fait un tout que moi, je trouve très important. Moi, vraiment, le contact avec la neige, c'est comme une grande leçon pour tout le monde. Parce que tous les adultes, maintenant, se tiennent debout, même si on fait des sports d'hiver, sauf peut-être glisser. Mais autrement, on est debout, au-dessus de la neige, toi, t'es dessus, là, complètement en contact avec la neige. Alors, t'amènes quelque chose qu'on ne fait plus, puis peut-être que si on se mettait à le faire, ça nous réconcilierait beaucoup avec l'hiver.
Ben oui, c'est ça. Moi, j'avais pas... c'est ça, la plupart des gens avaient hâte au printemps, mais...
T'étais la seule qui a aimé.
Moi, j'ai aimé l'hiver, mais c'est pas... Oh non!
Mais c'est merveilleux! Parce qu'il faut qu'on se réconcilie avec nos hivers.
Oui, mais ça m'a beaucoup appris.
Ça apporte... C'est collatéral, si on veut, mais quand même, c'est la place de l'art dans notre société, une société de froidure, dans laquelle c'est toujours le panier qui nous semble la chose à vénérer, alors que peut-être que c'est de s'étendre dans la neige qu'il faut apprendre à faire. Merci
beaucoup. Merci.
Merci,
Louise Nathalie.
C'est ce qui conclut cette présentation. Merci.